Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et ce vendredi matin, c'est Laurence Maillard-Meignerie, présidente de Renaissance Ille-et-Vilaine, qui est avec nous. Ex-députée, j'allais pas se dire victime collatérale de la dissolution. En tout cas, merci infiniment d'être avec
Bonjour,
nous ce matin.
Bonjour, merci. Merci à vous.
Bonjour. Et on va parler de politique hein, ce matin.
Avec plaisir.
J'avais envie de vous entendre sur le budget. J'ai l'impression un petit peu de me répéter chaque matin parce qu'on en parle beaucoup de ce budget aujourd'hui. On a vu que le Parti socialiste menaçait d'aller à la censure. J'allais dire encore une motion de censure. Et là, on rentre quand même dans quelque chose d'assez inédit, si censure il y a, c'est-à-dire une grande instabilité politique. Et j'ai envie de prolonger ma question en vous demandant, est-ce qu'on avait besoin de ça ?
Alors, est-ce qu'on avait besoin de ça ? D'une énième épisode de chantage sur des propos qui auraient été tenus, pas tenus. Enfin, je pense qu'il y a un moment donné, prendre conscience aussi de l'inquiétude des citoyens, des citoyennes, qui voient que nous avons les politiques ne sont pas en capacité de se mettre d'accord, ou du moins, s'ils tombent d'accord, on sent que ces accords sont extrêmement fragiles. Je pense que ça s'explique parce qu'en France, on a un pays qui est absolument pas ou très peu dans la culture de la coalition, contrairement à d'autres pays européens, qui par nature et vu les institutions cultivent l'esprit de coalition et le dialogue, quoi qu'il en coûte, d'une certaine façon. Et en France, on sent que c'est encore une fois une difficulté liée au fait majoritaire. Qui préexiste dans nos institutions. L'Assemblée nationale, c'est une institution du fait majoritaire. Et dès lors que vous n'avez plus de majorité absolue pour décider, eh bien, il faut travailler en coalition. Et là, c'est probablement la culture politique des partis politiques qui est quand même assez dépourvue de capacité à construire une coalition sur la durée. Donc, c'est ce qu'on a vécu pendant presque deux ans, entre 2022-2024. L'Assemblée nationale, nous étions en majorité relative. Alors, majorité relative et majorité absolue, la différence, c'est que la majorité relative, on ne peut pas voter un texte sans l'appui d'autres députés ou d'autres groupes.
D'où encore l'esprit de coalition, quelque part.
Alors, différemment, parce qu'en fait, il fallait, par nature, quand on vote un texte, on ne s'efforce pas que de satisfaire un camp par rapport à l'autre. On essaye de faire en sorte que le texte soit compris et que l'adhésion à un texte de loi soit un petit peu plus large que son propre camp. Et donc, entre 2022 et 2024, c'est pas forcément connu, mais on a réussi à voter quand même une centaine de textes de loi, petites, et puis des réformes un petit peu plus longues qui ont engagé des discussions sur plusieurs jours pour trouver des accords et des ajustements sur des textes de loi. Quand on est législateur, on est soucieux quand même et en responsabilité, c'est-à-dire rapporteur d'un texte ou responsable d'un texte pour son groupe, on travaille évidemment avec d'autres groupes politiques qui, par leur sensibilité, peuvent être aussi concernés par un texte et y adhérer, apporter des amendements, le faire évoluer. C'est ça, la construction du débat démocratique. Et c'est ça que les institutions sont garantes de préserver ce débat démocratique. Aujourd'hui, après la dissolution, la situation est pire parce qu'il n'y a plus de majorité absolue du tout. Et aucun groupe politique n'est en capacité de décider seul, évidemment pas. Mais en plus, c'est plutôt la culture de l'affrontement qui demeure pour des raisons politiques qu'on pourra bien évidemment discuter ensemble au cours de ce moment politique. Mais voilà, il faut prendre conscience que les temps changent et que cette culture du compromis qui est la base de la démocratie apaisée, c'est ça. Et je crois qu'il y a beaucoup de concitoyens et de concitoyennes qui aspirent à ces démocraties apaisées après avoir connu des turbulences qu'on a connues ces derniers mois et ces dernières semaines.
La question qui revient souvent, c'est fallait-il une dissolution ? Est-ce qu'il y a une faute politique du président de la République ?
Alors, on ne peut pas parler de faute politique dans la mesure où une dissolution, c'est dans les prérogatives du président de la République. Mmh. Comme nommer un Premier ministre, c'est les prérogatives du président de la République. Donc moi, je suis légitimiste, un président de la République a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale si il estime que le contexte politique est une forme de blocage et ne permet pas d'avancer. Moi, j'ai toujours dit, puisque je suis d'une certaine façon victime collatérale, mais après, c'est un peu facile et rapide de le dire comme ça, mais je pense que nécessairement, on aurait pu arriver à ce point de blocage au moment du vote du budget, mmh. qui est un moment important dans la vie politique. Vote le budget, les parlementaires qui appartiennent à la majorité. Ne votent pas le budget, les parlementaires qui veulent être identifiés comme ne pas appartenir à la majorité, par conviction ou par posture politique. Donc, dès l'instant où le budget arrivait, évidemment, on serait arrivé dans cette période d'automne, qui est la période de discussion budgétaire, qui dure longtemps. Hein. Ce n'est pas un vote, le budget. C'est une dizaine de votes en tout, une dizaine de textes. C'est un peu complexe. On se serait trouvé face à une opposition et probablement un blocage et probablement une motion de censure, ce qu'on prédisait plus ou moins tous. Mmh. Bon. La chose qui nous a un peu tous surpris, c'est que le président de la République a lui-même dit on ne va pas relier le vote des européennes avec une situation politique nationale. Mais pour autant, c'est ce qu'il a fait. Voilà. Et donc, avec une certaine forme, j'allais dire, de brutalité dans l'annonce, il faut savoir qu'une dissolution, une fois qu'elle est annoncée, c'est un décret de dissolution. Et le lendemain, vous n'êtes plus député, vous licenciez vos équipes, tout s'arrête, tous les dossiers en cours s'arrêtent et le travail à l'Assemblée nationale s'arrête immédiatement, c'est terminé. Voilà, donc c'est une forme, c'est une brutalité au sens de situation, mais qui reste dans les prérogatives du président de la République.
Il n'avait finalement, le président de la République, pas de marge de manœuvre, il fallait forcément passer par la dissolution ou alors tenir tête.
Alors moi, je pense que je crois toujours au dialogue, je crois toujours à la capacité que nous avons de le faire, mais il nous faut du temps. Mmh. Le dialogue, la construction d'un compromis, ça nécessite du temps. Surtout pour les raisons que je vous ai dites un peu plus tôt, c'est-à-dire que quand on n'a pas la culture du compromis, quand même le dialogue, la démocratie, les corps intermédiaires, quand tout est un petit peu grippé par des postures, par un manque de fluidité dans la vie démocratique, si je puis dire, ben on sent bien que ce temps-là, il est forcément nécessaire pour se dire on a un objectif, c'est de créer une coalition, de s'entendre sur une base programmatique, d'y parvenir, mais on avait vraiment le sentiment que tout était figé et très bloqué. Voilà. Ça m'est difficile de juger a posteriori est-ce qu'il a eu raison de le faire, est-ce qu'il a eu tort, c'est pas le sujet, c'est maintenant, il faut se projeter dans le moment présent et dans l'avenir. Et il faut certainement que les partis politiques et les personnes en responsabilité œuvrent à trouver des compromis, sans quoi on n'est pas capable de dire dans quelle situation on se trouvera dans les prochaines semaines, sans un budget voté.
Alors avec justement cette absence de budget et qui cause des problèmes dans le fonctionnement de l'économie française, on pourrait même aller au-delà de tout ce qui est étatique ou un peu régalien. On le voit dans le monde de l'entreprise aujourd'hui. Les entreprises, les patrons d'entreprises ne veulent pas investir, ne veulent pas prendre de risques. Attendent que ce fameux budget arrive. Est-ce que c'est dangereux, justement, toute cette attente, tout ce temps, j'allais presque dire perdu, je ne sais pas, vous allez m'éclairer là-dessus, mais dans le moment où on ne vote pas le budget et qui bloque beaucoup de choses.
Alors, ce n'est pas qu'il n'y a pas de budget. Il y a une loi spéciale qui a été votée.
C'est le budget 2024, finalement.
Exactement. Mmh. Donc, qui prolonge un certain nombre de dépenses qui ont été déjà entérinées. Pour autant, il y a un grand nombre de missions qui ne sont pas possibles en l'absence d'un vote sur le budget pour 2025. C'est à la fois le budget de la sécurité sociale et le budget de la France sur les politiques régaliennes et autres. Donc, on peut se dire, on peut continuer comme ça, mais ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, la loi spéciale, elle dit le minimum de ce qui peut, le minimum minimorum de ce que peut permettre de faire fonctionner un État. Mais ça, c'est absolument pas durable et c'est dans le temps, c'est pas possible. Absolument, situation dégradée, voire même des recrutements qui peuvent pas se faire, des missions qui peuvent pas s'accomplir sur tout un ensemble de sujets, y compris sur les sujets régaliens importants. Donc l'armée, l'éducation nationale et beaucoup d'autres missions régaliennes de l'État. Donc, on ne peut pas se satisfaire d'une situation comme celle-ci. Et puis, ça crée un climat de défiance, d'anxiété, d'inquiétude. Et comme, évidemment, un grand nombre de choses, mais l'économie, les chefs d'entreprise, le monde économique sont très reliés à un climat de confiance ou de défiance. Et puis, c'est une vision dégradée de nos institutions qui n'inspire pas cette confiance, qui donne une image de la France ingouvernable. Et je pense que cette inquiétude, elle se ressent un peu dans toutes les strates de la société, économique, sociale et environnementale aussi, puisqu'il y a des sujets environnementaux et climatiques très reliés à tout ça aussi. Voilà, donc on peut que le déplorer et on peut que, en ce qui me concerne, appeler à la raison les responsables politiques d'arrêter cette surenchère permanente. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est ce chantage en permanence. Je pense que c'est pas une démocratie mature que en permanence brandir la censure, qui est un droit, bien sûr, incontestable, mais sans être capable de vraiment construire durablement un chemin de compromis qui permette de rassembler tout le monde. Voilà, il faut aussi rassurer, penser aux Français et aux Françaises qui s'inquiètent, aux entreprises, petites ou grandes d'ailleurs, qui s'interrogent, qui se demandent si le contexte va leur permettre de prospérer, d'avoir une vision sur la fiscalité un peu plus longue que des discussions sur les plateaux télé, et puis voilà, d'être assurés sur leur capacité à recruter, à garder de l'emploi, à avoir des marchés, à se projeter à l'international quand ils peuvent, ou tout simplement des marchés locaux pour les petites entreprises qui ont besoin tout simplement d'un cadre sain pour travailler, tout simplement.
Avec l'aspect politique aussi du Rassemblement national, qui a beaucoup progressé, on l'a vu lors des dernières législatives, on sent que les Français, là aussi, ont une forme de défiance vis-à-vis de leur politique, je dis en termes génériques, hein, leur politique, c'est-à-dire une forme de défiance vis-à-vis du personnel politique, c'est assez transversal du reste. Est-ce que c'est là aussi une forme de dangerosité pour la démocratie, pour le pays, pour les institutions?
Mais les extrêmes, qu'ils soient de gauche ou de droite, vivent du populisme. Et le populisme, c'est quoi? C'est faire l'agrégation des colères. C'est vivre sur les colères des gens, sur leurs frustrations, sur leurs inquiétudes. Donc c'est un cynisme politique que moi je dénoncerai, j'ai toujours dénoncé, que je continuerai à dénoncer. Pour autant, on doit entendre ça.
Il y a une colère. Il y a une colère du peuple.
Il y a de l'inquiétude. Il y a à la fois de l'inquiétude. Il y a de la colère. Il y a de l'indécision. Il y a de la peur de l'avenir. Il y a le regret du passé avec cette petite ancienne qui dit c'était mieux avant.
Voilà, le fameux c'était mieux avant.
C'est toujours plus rassurant de ce qu'on a connu que de se projeter dans l'avenir, dans un monde incertain, un monde qui est compliqué, avec la guerre en Ukraine, le Proche-Orient qui s'est embrasé, avec les États-Unis et un dirigeant extrêmement anxiogène.
Brutal, quelque part.
Et brutal. Donc, l'inquiétude des gens, elle est totalement légitime. Après, la responsabilité des hommes et des femmes politiques, c'est de pas seulement discuter des solutions, c'est d'agir concrètement. Voilà. Et c'est le blocage que nous connaissons. Je pense que c'est une défiance à l'égard des hommes, peut-être, et des hommes et des femmes politiques, peut-être. Mais j'ai envie de dire que c'est plutôt une défiance à l'égard des institutions, globalement, qui régulent la vie démocratique et qui sont, aux yeux de beaucoup de personnes, aujourd'hui dans la capacité d'avancer. Ce sentiment de blocage est extrêmement anxiogène et toxique, et donc il faut en sortir.
Est-ce que pour en sortir, il faut tourner la page de la Ve République qui a été voulue et qui a été mise en place par le général de Gaulle en son temps, en 1958? Est-ce qu'il faut tourner la page de cette Ve République et aller vers une Vie République? On entend beaucoup de voix à gauche, chez les filles en particulier, qui disent, voilà, faut tourner la page, on reprend une page blanche et on fait autre chose.
Non, mais ça, c'est vraiment... c'est facile, c'est-à-dire on se projette dans l'inconnu, une Vie République dont on ne sait pas le début d'une phrase. On a une belle Constitution. On a une Ve République qui a résisté à toutes les tempêtes quand même. Donc, qu'il y ait des ajustements, et il y en a de temps en temps, occasionnellement, à la marge, mais des institutions qui sont à la fois pensées pour la stabilité, peut-être pas encore assez pensées pour l'instabilité. Pour autant, Il y a des outils constitutionnels, une constitution qui évolue avec de la jurisprudence. C'est une matière vivante.
Elle évolue avec son temps.
Je trouve ça inconséquent de se dire on se projette dans une sixième république, on fait table rase du passé. En revanche, je pense que, et j'ai toujours été assez convaincue qu'il faut, dans cette cinquième république, envisager une démocratie peut-être plus ouverte sur la participation, sur la possibilité d'associer davantage les citoyens à des décisions. C'est le cas, évidemment, à l'échelle locale. Les conseillers municipaux et les élus locaux sont en capacité d'associer bien souvent les citoyens à des décisions, et ils le font. Et d'ailleurs, ils ont la confiance des citoyens. Les maires ont la confiance des citoyens et des citoyennes.
Souvent, bien plus élevée
que les élus nationaux.
Maire, on ne garde pas son étiquette politique. Voilà, c'est la personne, c'est la capacité à diriger.
On est plus ouvert. On se dit, peu importe. Tant que c'est un bon maire ou une bonne maire, on est content. Il n'y a pas de... Le sujet se pose pas du tout de la même façon. Et donc, quand je dis un espace de démocratie ouverte à la société civile, c'est une capacité à organiser, pourquoi pas, des conventions citoyennes, ce qui était le cas, et de tirer les conclusions de ce travail des citoyens, accompagnés dans le cheminement qui est aussi de faire, de prendre des décisions difficiles sur des sujets difficiles. Mais c'est aussi une voie référendaire qu'on n'utilise pas du tout en France, ou en tout cas la Constitution aujourd'hui nous permet pas d'utiliser le référendum de façon simple. Mais c'est bien aussi d'avoir un cadre. Donc il faut peut-être aussi évoluer même à l'Assemblée nationale, avoir des commissions citoyennes sur lesquelles on peut se reposer pour avoir aussi l'avis des citoyens éclairés, formés. C'est pas du populisme, ça, c'est de la démocratie participative, c'est la social-démocratie qui intègre aussi une vision active de la participation citoyenne. Encore faut-il que les citoyens acceptent de rentrer dans des organisations un petit peu plus structurées pour donner leurs avis, travailler sur le long cours sur des sujets un peu complexes. Mais ça aide les élus, bien sûr, ça objective la décision, et on l'a fait sur le climat, sur la fin de vie. Il y aurait beaucoup d'autres sujets sur lesquels on pourrait s'appuyer autour d'une convention citoyenne à l'échelle locale, régionale ou nationale.
Ça me fait penser, par association d'idées, on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Il y aurait beaucoup à dire, je pense que la matinale ne suffirait pas, mais on a beaucoup d'expressions, parfois violentes, parfois... parfois très, très dégradante vis-à-vis des élus. Est-ce que l'élu que vous avez été, en tout cas à l'Assemblée nationale, jusqu'à cette fameuse dissolution, et la femme politique que vous êtes aujourd'hui, vous regardez les réseaux, est-ce que ça vous inquiète ce qui s'y dit, ça vous inquiète ces appels à la colère, à la haine?
Je pense qu'ils ont... Les réseaux sociaux, c'est une caisse de résonance extrêmement forte et puissante qu'on n'avait pas avant... et qu'aujourd'hui, on doit non pas forcément dompter, mais il faut réguler, bien entendu, avec
la
modération.
On en parle beaucoup, cette question de X.
C'est un vrai sujet, bien sûr.
Twitter.
La question des réseaux sociaux en général. Pour répondre à votre question, il y a aussi... Quand on est parlementaire, on est évidemment, on siège à l'Assemblée nationale et on a un rôle de législateur. Et moi, j'ai eu beaucoup de chance dans un mandat et demi presque d'avoir des responsabilités à l'Assemblée nationale, d'être présidente 2 ans de la commission de développement durable et de l'aménagement du territoire. C'est des belles responsabilités que de présider une commission parlementaire. D'ailleurs, c'est Sandrine Lefeur qui la préside aujourd'hui. C'est la députée de Morlaix Renaissance. Tout ça pour vous dire qu'en fait, on a aussi un travail sur le terrain qui est indispensable. Un élu qui prend des décisions au niveau national est forcément loin des préoccupations, ou en tout cas peut s'en tenir à distance s'il souhaite s'en tenir à distance. Moi, j'ai toujours été sur le terrain.
Les Français reprochent un petit peu cet éloignement, justement, des élus qui sont... certains parlementaires, il ne s'agit pas de jeter l'opprobre.
Je pense que les parlementaires ont tous à cœur d'être proches de leurs concitoyens, de leur circonscription, d'où l'intérêt des circonscriptions. Et aucun parlementaire aujourd'hui ne pourrait être élu s'il n'était pas proche et en situation d'être sur le terrain, bien sûr, studiément de la sociologie électorale, bien entendu. Mais je pense que ce lien avec le terrain, c'est pas une idée creuse. C'est la réalité, c'est d'être aussi présent. C'est pour ça que c'est un mandat extrêmement prenant, parce que vous êtes à la fois tenu d'être présent à l'Assemblée nationale pour les votes, pour travailler les textes, mais aussi au contact de vos concitoyens, dans la mesure du possible, pour expliquer ce que vous faites. Donc c'est des moyens de communication via les réseaux sociaux, bien entendu, mais c'est des lettres d'information, c'est des newsletters, c'est des réunions publiques, c'est le contact que vous avez à l'occasion d'un événement dans une commune auquel vous êtes invité et auquel vous avez le contact avec les citoyens. Et puis, il y a aussi les postures des élus. Il y a certains élus qui sont en recherche de modération, de pédagogie, d'explication. Et puis, vous avez des élus qui sont dans la provocation constante. Et moi, je dénonce aussi à l'Assemblée nationale, ce que beaucoup de gens réprouvent aussi, c'est cette violence verbale qui est du plus mauvais effet, notamment par rapport aux règles et au respect de la démocratie, du débat public, alors que vous apprenez à vos enfants à être dans la vie, dans la cité, des personnes respectueuses, et à l'école aussi de s'écouter. Bon, là, vous avez un exemple qui démontre que les élus ne sont pas capables de cette maturité pour au moins montrer que l'institution, elle est capable d'avoir un débat apaisé. Certes, la conflictualité, elle existe,
c'est
elle
la vie
doit
politique.
Exister, bien sûr. Et il vaut mieux que les débats de fond aient lieu et des désaccords, bien sûr, s'expriment dans l'enceinte de l'Assemblée nationale, qui est un hémicycle. Et l'hémicycle, on est là pour parler. Et donc, seulement, il y a ce degré de violence politique qui, parfois, déconcerte beaucoup, inquiète et ne montre pas l'exemple.
Avec des questions qui sont clivantes, souvent on a entendu évidemment ces paroles du Premier ministre François Bayrou qui a parlé de submersion migratoire, qui a fait beaucoup débattre, qui a fait beaucoup couler d'encre, et là on se retrouve avec des sujets clivants, effectivement, comme l'immigration, comme la sécurité. On parlait de sécurité même à l'échelle locale hier avec notre invité de la matinale, le maire de Morlaix, Jean-Paul Vermeaux, qui se bat sur le terrain contre la progression du trafic de drogue. Là aussi, le terrain, la législation, la loi et pouvoir arriver à allier les deux et dépassionner le débat quelque part. Oui.
Ce sont des sujets extrêmement sensibles. Et comme ce sont des sujets extrêmement sensibles, d'abord, moi, je ne fais jamais la liaison entre insécurité et immigration.
Voilà, j'ai mis les deux sujets côte
bien
à côte.
Je comprends. Voilà, d'ailleurs, c'est assez... beaucoup font ce lien-là. Donc, les faits démontrent que non. Bien sûr qu'il peut y avoir de ci et de là. Les sujets peuvent se percuter, bien entendu. Mais il faut les dissocier. Parce que si on ne les dissocie pas, on se retrouve dans une espèce de lessiveuse populiste et anxiogène. Donc, il faut faire attention aux mots qu'on emploie. Et quand le Premier ministre utilise le terme de submersion, c'est le terme qu'utilise l'extrême droite de façon courante pour signifier qu'il y a cette forme d'énorme vague contre laquelle on serait dans l'incapacité de réguler et cette façon d'être noyé dans un grand emplacement. C'est ça la théorie, les théories d'extrême droite, quelles qu'elles soient, d'inquiéter les gens. Tout compte fait, de mettre à mal notre pacte républicain, du bien vivre ensemble, de la richesse, de la diversité, notre capacité à accueillir aussi. La France est un pays qui a toujours accueilli des populations, des réfugiés. Il n'en demeure pas moins qu'on s'interroge sur un sujet évidemment du quotidien qui questionne l'Europe et qui questionne tous les pays riches, entre guillemets, qui ont à la fois du pouvoir d'achat, une capacité aussi à avoir un destin plus enviable que dans des pays pauvres qui subissent des guerres, du changement climatique, des exactions en tout genre. Que ces pays viennent, soient attirés par l'Europe, les États-Unis ou d'autres pays riches, on peut le comprendre. Maintenant, comment on répond ? D'abord, c'est l'Europe qui doit répondre. Parce que nous sommes dans l'Europe. Et l'Europe, les frontières sont européennes.
Avec des pays qui sont pas toujours d'accord.
Alors, les pays sont pas d'accord.
Voilà, on pense à la Hongrie, par exemple.
Mais ils l'ont été quand même pour voter le pacte asile-immigration européen. Mmh. Voilà, on a tendance un petit peu à l'oublier. Avec des décisions qui ont été prises aux frontières de l'Europe, le rôle de Frontex, une régulation, des traités qui ont pu être aussi la question de la règle de Dublin, de l'accueil, dans le pays d'accueil, avec les situations qu'on a connues en Espagne, en Italie, sont absolument à voilà vont évoluer. Mmh. Il n'est pas logique que des pays soient seuls à supporter le poids d'arrivées massives de personnes qui veulent trouver refuge en Europe.
Voilà, il faut une répartition. Bon,
donc il faut une répartition, bien entendu. Il faut que les Européens, c'est ce qu'ils ont fait dans le pacte asile-immigration, en tout cas prennent ces décisions de régulation, d'un accueil qui soit de qualité et la capacité à dire oui et la capacité à dire non. C'est ça qu'il faut. Mmh. Et aujourd'hui en France, on a certainement cette capacité à dire oui. On a un droit d'asile qui est pas que français, mais qui est en tout cas qui honore les pays pour accueillir des Syriens, pour accueillir des personnes qui subissent des guerres, des femmes qui subissent l'excision, des enfants qui sont déportés dans des zones de conflit. On se doit d'accueillir dans les meilleures conditions et de trouver refuge dans notre pays. Pour autant, il y a une immigration qui est sensible au sens des personnes qui arrivent avec un visa touriste, des étudiants qui arrivent avec un visa étudiant et qui restent en France. Mmh. Donc ce qu'on appelle les personnes qui, à un moment donné, n'ont plus de visa et d'autorisation légale pour rester sur notre territoire. Et c'est là qu'on a de l'ambiguïté, voire une certaine forme d'hypocrisie, en se disant, ces personnes-là, il faudrait qu'elles restent plusieurs années avant même qu'on puisse se demander s'ils ont une autorisation ou pas de rester sur notre territoire. Et on les laisse dans un espèce de no man's land, au fait voilà, ils n'ont pas de papier officiellement, ils n'ont pas la possibilité de travailler. Ils n'ont pas d'autorisation de travail. Ils ont des titres de séjour qui sont reconduits d'un mois à l'autre quasiment. Donc, comment construire sa vie? Comment construire un avenir?
Avec le danger pour les plus jeunes de tomber dans la délinquance, finalement.
Parce que comment vous vivez quand vous n'avez pas la possibilité de travailler, tout simplement? C'est quoi l'existence légale que vous avez? Donc, soit on leur dit, on ne vous accueille pas, et donc vous rentrez chez vous. Donc, les fameuses OQTF qui sont données à chaque fois aux personnes qui sont sans papier, mais qui... ne sont pas exécutés parce qu'on est dans ce no man's land, en fait. Donc, soit on dit aux personnes, vous restez, nous sommes heureux de vous accueillir, nous avons besoin de vous, nous avons besoin de votre force de travail et toutes les entreprises de l'agroalimentaire, notamment en Bretagne, ou du bâtiment, sont bien contents d'avoir aussi une main d'œuvre étrangère.
Il y a une demande.
Bien sûr qu'il y en a, il y a toujours eu et on a toujours accueilli. Et en même temps, moi, je suis partisane du fait que... les fameuses OQTF, pour les personnes qui sont un petit peu, qui exposent, qui représentent un niveau de dangerosité, il faut les exécuter. Et déjà, on clarifierait les choses. Voilà. Il y a les demandeurs d'asile à qui on accorde l'asile, et puis les autres personnes qui sont arrivées sur notre territoire à qui on dit, si vous voulez travailler, vous intégrer et vous respecter les valeurs de la République, aucun problème, mais autant savoir ce qu'on souhaite et le dire clairement.
Voilà, et c'est presque là-dessus qu'on va se quitter. Je voulais juste vous entendre, on a une poignée de secondes. Donald Trump, il vous fait peur aujourd'hui?
Mais Donald Trump, c'est Donald Trump. Il a déjà fait un mandat, donc on sait exactement à quoi s'attendre avec Donald Trump, à la fois du prévisible et du total imprévisible. Donc une grande prudence, et pour moi l'Europe doit resserrer les rangs et peut-être sortir un peu de sa naïveté et être forte sur ses appuis. Et c'est le moment de resserrer les rangs et d'être oui, c'est une inquiétude évidemment très forte.
Et de répondre finalement à Donald Trump. Merci infiniment.
Merci à vous.
D'avoir
Merci
été
beaucoup.
Avec nous ce matin, Laurence Maillard-Meignery, présidente de Renaissance Ille-et-Vilaine. Et on parle de l'Ille-et-Vilaine, on aura une pensée.
Évidemment, pour tous ceux qui sont touchés par les inondations, et on leur souhaite et du courage et de la patience. Ça va rentrer dans l'ordre, mais c'est des dégâts assez considérables.
Là aussi, il faut que les élus soient à leur côté.
Absolument.
Merci infiniment.
Merci beaucoup.
Je vous souhaite une très belle journée.
Merci à vous aussi. Merci.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.